Bonjour, je vous remercie d'avoir bravé les éléments. Vous vous souvenez peut-être du vers de Dogen, justement sur les quatre saisons, l'hiver, Fuyu wa Yuki, n'est-ce pas ? Et qui avec la neige si fraîche en sa blancheur. Alors, nous avons vu au cours précédent la place occupée par le Sutra du Lotus dans la pensée religieuse de Dogen, ce que j'appellerais sans état d'âme la pensée religieuse, puisque enfin, vous allez voir encore de quelle façon elle opère aujourd'hui. Et comment cette place privilégiée du Sutra du Lotus confère d'emblée à son œuvre dans la tradition du Chan, du Zen, à la fois du Chan chinois et du Zen japonais, une place tout à fait singulière, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on retrouve aussi affirmé dans le Chan chinois, bien sûr. Et je vous ai aussi, j'ai fait plusieurs fois allusion, ce ne sera pas, malheureusement pas la matière d'un cours, parce que ce serait trop long, mais à l'effet de retour effectué par Dogen, le Dogen japonais, en Chine, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a des sites zen, ou Chan, je ne sais pas comment dire, chinois, qui se réclament maintenant de Dogen. Donc cette place privilégiée du lotus, c'est bien sûr une conséquence de sa formation Tendai. On ne peut pas faire la distinction entre les deux, et vous allez le voir aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, bien sûr, il y a la formation directe du Tendai qu'a suivi Dogen, et aussi le milieu culturel général, je le répète encore et encore, l'époque de Heian, la fin de l'époque de Heian, dont Dogen est quand même un produit direct par son éducation, toute la culture de Heian, c'est une culture que j'appellerais lotusienne, elle est centrée sur le Sutra du Lotus, qui est, et les, dans l'exégèse du Tendai, je l'ai souvent dit, je vous le répète, même les nobles, pas seulement les moines, mais les nobles lisaient les grands textes du Tendai, enfin souvent les moines étaient nobles d'ailleurs, et c'est une place pratiquement comparable à ce que la Bible a pu avoir, à la place que la Bible a pu avoir dans les sociétés anciennes en Europe et parfois encore maintenant. Et cette place centrale du lotus ne sera pas remise en question malgré l'essor du nouveau, ce qu'on appelle un peu moins maintenant le nouveau bouddhisme de Kamakura, le Kamakura Shimbukyo, n'est-ce pas ? Et il ne serait pas très difficile de regarder, de trouver tout au long de l'histoire japonaise la place que le Sutra du Lotus a occupée chez des moines qui n'étaient pas d'un courant lotusien quelconque, que ce soit le Tendai, le Nichiren-shu ou même Hosso-shu, où on peut dire que le Sutra du Lotus a aussi une place particulière. Donc, c'est... Et comme je vous l'ai dit encore, les doctrines Tendai en général, la dogmatique Tendai, c'est l'armature intellectuelle du bouddhisme, c'est l'armature intellectuelle de la culture japonaise en général, de l'époque et après. Et si bien que pour les gens, même qui n'étaient pas du Tendai, lire le Sutra du Lotus, c'était le lire selon l'œil du Tendai. Nous en avons vu des exemples la dernière fois à travers la lecture des cinq poèmes de Dogen, les cinq poèmes sur le lotus attribués à Dogen. Ce ne sont pas seulement des poèmes sur le lotus, ce sont des poèmes sur le lotus compris selon l'exégèse du Tendai. Donc, présence, omniprésence du lotus est un trait caractéristique de l'œuvre de Dogen et surtout celle que nous allons voir dans les cours suivants, et donc le Shobogenzo et aussi sur le Ehe Koroku qui est l'arrière-plan chinois du Shobogenzo. Les gens il y a des gens qui ont travaillé sur le, de façon spéciale sur cette scolastique Tendai et Dogen, mais on ne l'a pas examiné dans tous ces ressorts, je dirais, linguistiques, et nous allons en voir un exemple aujourd'hui. Je tiens à vous répéter cette idée d'une armature intellectuelle, une sorte de grille de lecture. Et ce qui fait que le mode même de alors je ne sais pas s'il faut dire penser, parce que c'est le mode même de rhétorique de Dogen, est modelé par le Tendai et le Lotus, même lorsque ce n'est plus, lorsqu'il s'en éloigne. Et c'est l'un des buts du cours d'aujourd'hui. Et certaines de ces envolées doctrinales ou religieuses qui nous semblent incompréhensibles, eh bien, partent du Sutra du Lotus. Alors, il faut bien sûr reconnaître que le style de Dogen est parmi les plus obscurs de la littérature japonaise, et singulièrement dans le Shobogenzo. Ce n'est pas seulement le fait de lecteurs occasionnels ignorants du bouddhisme, parce que Dogen est très lu au Japon maintenant, est très lu non seulement dans le bouddhisme, mais aussi, et peut-être même surtout, par les philosophes japonais, et d'ailleurs il y a même aussi un mouvement extra-japonais en faveur de Dogen, parce que, comme vous le savez, comme je vous l'ai peut-être dit très brièvement, Dogen a connu une sorte de revalorisation philosophique, essentiellement par l'œuvre de Watsuji Tetsudo, vous savez, qui avait écrit son Shamon Dogen, qui a été au début du XXe siècle, qui a été un travail fondateur dans ce sens, où l'on réinterprète maintenant Dogen non plus dans le cadre du bouddhisme, mais dans le cadre d'une philosophie occidentale, et l'on cherche chez Dogen une réflexion sur des problèmes énoncés de façon philosophique. La perplexité des lecteurs japonais qui ne sont pas formés au bouddhisme, même lorsqu'ils sont formés au bouddhisme, qui ne sont pas formés au Tendai devant Dogen, eh bien, c'est résumé, si je puis relater une expérience personnelle, par un grand spécialiste japonais du bouddhisme chinois qui est mort maintenant et qui avait dit une fois, après avoir fait une série de lectures, de conférences sur le Shobogenzo, il avait conclu en disant « Dogen était ivre ». C'est-à-dire qu'il parlait sous l'influence de la boisson, ce qui reflétait d'ailleurs la propre expérience de ce professeur, qui était un grand rabelaisien, mais qui montre à quel point Dogen désarçonne même les connaisseurs du bouddhisme, de la langue japonaise, de la langue classique et du Kanbun. Il nous désarçonne à tous les niveaux. Ça reflète bien le désarroi de tout lecteur à la lecture de Dogen dans cette espèce de tourbillon dialectique qui est entièrement fondé sur le développement quasi spontané, enfin qui apparaît comme spontané, des possibilités de l'expression de départ. Il part toujours d'une expression. Il part à chaque fois de ce qu'on appelle un koan, n'est-ce pas, une énigme, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, ce n'est pas le terme qu'il emploie, on reviendra là-dessus, mais on peut employer koan sans trop nous interroger, soit un koan, soit une citation de sutra, et il mène jusqu'à l'épuisement toutes les combinaisons possibles d'énoncés qui pourraient se faire sur l'expression linguistique de départ. Or, cela ne semble possible, et c'est encore une fois la raison de ce titre, n'est-ce pas, le zen entre deux langues, dans le cas de Dogen en tout cas, mais c'est quelque chose qui est vérifié par ailleurs, que si le point de départ est pris dans un terme de langue chinoise, il faut bien voir ce mouvement. Mais on ne met pas suffisamment ce fait en évidence. Cela va sans dire, mais non, ça ne va pas sans dire. On va voir que la centaine de titres de chapitres de Dogen, c'est toujours une expression chinoise et une expression codifiée. Ce n'est pas n'importe quoi. Il part toujours d'une expression reconnue, qui a une place dans l'histoire. ce qui fait que la combinatoire langagière, je me risquerai à l'expression, la combinatoire langagière de Dogen n'est légitimée qu'en posant au départ l'altérité du chinois, altérité que l'exégèse japonaise démontre comme défiant en définitive toute compréhension, ou plutôt toute forme exprimable. C'est-à-dire qu'il prend des termes connus, supposés connus de tous, et il va les mener au bout. D'ailleurs, vous allez voir, on va voir comment il exprime linguistiquement même cette espèce de mener au bout des choses. Il les mène au bout par sa combinatoire. Et ce titre de Zen entre deux langues, donc, donne une idée du processus en cours. Dogen apprend par l'exemple à ses disciples non pas seulement à méditer sur la langue, ce qu'il ne fait pas, il le fait puisque c'est une forme d'exégèse, mais à méditer par la langue. C'est-à-dire que, là je me pose un peu comme hérétique, mais d'ailleurs vous allez voir que tout cela n'est pas clair du tout. On dit Dogen c'est le Zazen, n'est-ce pas, le Sotoshu c'est le Zazen, le Rinzai c'est le Koan. On va voir que ce n'est pas du tout cela. Et il y a aussi cette dimension de Dogen qui est sa combinatoire langagière, oui, son espèce de processus éblouissant, vous allez le voir tout à l'heure, éblouissant, eh bien, c'est une méditation par la langue. Et j'espère pouvoir revenir là-dessus au cours de conclusion. Donc, on s'explique ainsi pourquoi tous les chapitres du Shobogenzo ont un intitulé chinois, donc, où ce soit ou bien sino-japonais. Ça peut être des expressions de 2, 3, 4 caractères, très rarement davantage, et ce sont des termes qui désignent le plus souvent des gi, n'est-ce pas, c'est-à-dire des dogmes, des doctrines reconnues, des doctrines bien déjà définies, parfois aussi des métaphores, enfin, nous avons vu l'écho des vallées la dernière fois. Donc ce sont vraiment très littéralement des prétextes au développement dogénien, des prétextes chinois au développement dogénien qui se déroulent en japonais. Si on la ramène à cette relation sino-japonaise, une relation langagière sino-japonaise, la méthode de Dogen nous apparaît soudain plus familière, moins extravagante. Il faudrait en particulier l'examiner à la lumière de la riche tradition Tendai, de l'exégèse Tendai, et en particulier celle qui est fondée sur les quatre sens de l'écriture, que je vous donne ici, ce qu'on appelle, il y a plusieurs appellations, je vous donne la plus répandue, Shishusaku, c'est-à-dire les quatre modes d'exégèse, et il y a plusieurs types d'exégèse dans le Tendai, en 4, 5, 7 niveaux, n'est-ce pas ? Et sans compter d'autres catégories exégétiques dont nous avons vu l'une d'elles en action l'an dernier avec Jien, n'est-ce pas, qui était en 6 degrés. Bon, pour l'instant, je vous donne ceci parce que je vous ai donné la transcription de la quatrième, le Kanjin Shaku, puisque c'est la plus importante. Ça nous mènerait trop loin de vous donner à chaque fois une explication, mais cette exégèse, donc une exégèse, c'est sur quelque chose, c'est sur un sutra, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des quatre sens du sutra du lotus que l'on peut discerner à travers ces quatre degrés de lecture qui vont du plus bas, du plus immédiat, au plus haut. Le premier, évidemment, innen shaku, l'explication par les causes et conditions, qui veut dire aussi les relations historiques, les relations. Donc c'est en quelque sorte l'exégèse littérale qui va nous dire pourquoi le Bouddha, dans tel chapitre, parle de telle ou telle chose, à qui il s'adresse, etc. Yakkyo shaku, la seconde, c'est l'exégèse qui se place du point de vue de la doctrine. Vous savez que dans le Tendai, vous avez au moins quatre niveaux de doctrine. Il faut chaque passage est susceptible d'être commenté sur quatre niveaux, selon quatre doctrines différentes. De la doctrine la plus élémentaire, qui est le petit véhicule, jusqu'à la doctrine parfaite, qui est celle du lotus. Même le sutra du lotus peut être commenté selon ces degrés. Le honjakushaku, c'est... alors, vous voyez un mot familier ici, n'est-ce pas ? Vous souvenez du Honji Suijaku, vous avez les mêmes mots de Honji Suijaku. Cela n'a rien à voir, mais ça montre aussi à quel point le Honji Suijaku est quelque chose qui doit être compris dans le cadre du Tendai. Honjaku Shaku, c'est l'exégèse qui consiste à situer chaque passage que nous avons sous les yeux dans l'une des deux grandes parties du Sutra du Lotus, la partie dite fondamentale, foncière, et la partie vestigielle ou secondaire. Je ne reviens pas là-dessus, ce sont des choses un peu compliquées, mais celle qui m'intéresse, c'est la quatrième, le Kanjin Shaku, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois lorsqu'il s'agissait de poésie bouddhique, vous vous souvenez certainement. Kanjin Shaku, c'est l'exégèse par la contemplation de la pensée. Ne traduisez pas par la pensée contemplante, c'est un mouvement très particulier. C'est la personne qui se livre à l'exégèse lit un passage du Sutra du Lotus et observe l'effet que fait ce passage sur sa propre pensée, c'est-à-dire ce que ça provoque en lui. Et bien évidemment, si ça joue un tel rôle dans mes cours précédents, c'est parce que c'est ce qui fonde la poésie bouddhique japonaise. La poésie bouddhique japonaise, dont j'ai déjà souvent parlé, part le plus souvent du Sutra du Lotus. Il suffit de voir les grandes anthologies médiévales. Le Sutra du Lotus fait au moins la moitié des thèmes poétiques. Et le moine, par la poésie qui est lyrique au Japon, donc le moine exprime ce que lui fait le Sutra du Lotus, même lorsqu'il ne le dit pas en tant que tel. Et c'est la poésie bouddhique est en quelque sorte la manifestation, la concrétisation de ce quatrième degré d'exégèse qui semble le plus abstrait, mais qui est en réalité très concrètement réalisé au Japon. Et si bien que on peut se demander, à la lecture des sermons de Dogen, de Shobo Genzo, où nous avons un peu la même chose, c'est-à-dire que... on pourrait dire que le Shobo Genzo est tellement peu compréhensible à première vue qu'on peut le considérer presque comme une forme de poésie. En tout cas, c'est une forme de rhétorique combinatoire qui peut apparaître en effet comme une sorte de ce n'est pas une déconstruction comme qu'on a voulu le dire, c'est une élaboration sur un texte de départ. Et cette élaboration est à la fois dogmatique et créative. Et n'oubliez pas que dans ce concept d'esprit, de pensée, chez Dogen, comme partout dans le bouddhisme, mais singulièrement chez Dogen, vous allez le voir, joue un rôle prépondérant. C'est le siège de la nature de Bouddha, de l'éveil et du contact avec de l'identification avec le monde extérieur. Plutôt, il n'y a ni séparation, ni identification. C'est vraiment une sorte d'intégration complète entre les deux dimensions. Et ça n'a peut se comprendre que dans le cadre de cette exégèse de la contemplation de la pensée. Alors, par-delà cette exégèse de la pensée, on est aussi en droit de se demander quel est le but poursuivi par Dogen dans sa combinatoire langagière, où toute proposition se voit inlassablement remodelée et poursuivie jusque dans ses dernières implications. Alors, est-ce vraiment quelque chose d'aussi inouï dans la tradition bouddhique ? Dogen était-il ivre ou bien se situait-il dans quelque chose d'autre ? Et là, je voudrais, dans une tradition plus avérée. Et je voudrais quand même, ici, mettre en relief quelque chose qui ne me semble pas suffisamment mis en relief par ailleurs, c'est que ce que fait Dogen, mutatis mutandis, avec beaucoup plus de richesse de richesse documentaire, je dirais. Mais cette richesse est due à des causes historiques. On n'a pas toute l'œuvre de celui que je vous présente, enfin que je vous présente, vous le connaissez déjà, mais je vous le représente, si vous voulez. Nagarjuna, n'est-ce pas, le grand philosophe indien Nagarjuna, appelé en japonais Ryūjū, Ryūjū Bosatsu, le Bodhisattva Nagarjuna, dont on ne sait pas trop quand. J'ai mis 3e, 4e siècle. Il a pu vivre n'importe quand, entre 200 et 350, enfin, lorsqu'on a les premières manifestations en chinois de son œuvre. Mais il est bien sûr l'auteur du Daichi Doron, n'est-ce pas, le traduit en français par Étienne Lamotte sous le titre de Traité de la grande vertu de sagesse, c'est-à-dire une espèce d'immense encyclopédie qui a servi. C'est l'un des trois ou quatre grands textes indiens qui ont servi d'encyclopédie vraiment du bouddhisme extrême-oriental, où tous les moines allaient puiser leur science de l'Inde, des mœurs de l'Inde, du bouddhisme en général, des différentes écoles indiennes, etc. Bon, ça ne nous intéresse pas, pour l'immédiat. Et il est aussi l'auteur du Chūron, n'est-ce pas, Madhyamaka Kālika, qu'on appelle aussi le Madhyamaka Shastra, c'est-à-dire le traité du milieu qui a eu un succès, qui a eu un rôle très important dans le bouddhisme japonais. Vous savez que c'est l'un des traités du Sanronshu, c'est-à-dire l'école des trois traités du début de l'époque de Nara. Donc Nagarjuna, Ryūjū et son disciple Aryadeva, n'est-ce pas, Daiba, eh bien, sont les instigateurs de cette école du Madhyamika, du milieu, des tenants du milieu, Chūkan. Alors Chūkan, Chūdo, etc. Et vous allez voir tout à l'heure Chūgen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le milieu entre les opinions extrêmes. Mais alors, on pourrait dire ce n'est pas une sorte de Beyrouth du bouddhisme, n'est-ce pas ? Ce milieu entre les opinions extrêmes veut dire qu'on se refuse, on se refuse à poser, à affirmer et à nier aussi les opinions extrêmes. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir de la dialectique, opposante des termes. Vous allez le voir en œuvre chez Dogen. Et cette dialectique a un but, c'est de alors il ne faut pas nier justement, mais c'est de sortir de l'illusion selon laquelle il y aurait un jisho, un svabhava, une nature propre. Ça, c'est chez Nagarjuna, n'est-ce pas ? C'est une sorte de Nagarjuna détruit toute proposition, qu'elle soit affirmative, négative, ou les deux, ou l'un des deux, ou les deux ensemble, ou au-delà des deux. Il détruit toute proposition, et son arme de destruction massive, je dirais, c'est ce qu'on appelle le tétralème, n'est-ce pas, le shiku, on peut appeler shiku, bien shiku fumetsu, le chatushkoti, c'est-à-dire le sortir des quatre possibilités d'expression de toute proposition. Je n'entre pas dans les détails, vous le verrez concrétisé chez Dogen. Eh bien, Dogen met à exécution ce programme de Nagarjuna. Et c'est manifeste, et je suis étonné qu'on ne le voit pas suffisamment. Le Chū, et n'oubliez pas que cette idée des trois vérités, en quelque sorte, qui est aussi dans le Madhyamaka Kārika, eh bien, est repris dans le Tendai, la vérité médiane, donc vous savez Ku, Ke, Chū, n'est-ce pas, la vérité de vacuité, la vérité de conditionnalité, et la vérité médiane, c'est le mouvement même de la pensée Tendai, qui s'appuie sur Nagarjuna. Et nous le savons bien, puisque, je ne pense pas vous en avoir parler, oui. Nous le savons bien. Vous savez que le Tendai, comme le Zen, etc., pose d'abord sa lignée pour se légitimer. Il y a deux grandes lignées historiques que définit l'historiographie de Tendai. Et il y a une des lignées qui s'appelle, je vous ai mis ici, Kanshi Sōjō, n'est-ce pas, la transmission des maîtres de l'époque moderne. Je veux dire, à la fois, des maîtres de l'époque moderne et de notre école, ne l'oubliez pas, c'est la lignée courte qui prend donc, elle consiste en quatre noms. Les trois derniers noms, c'est Hui Wen, Hui Si et Zhiyi, c'est-à-dire Emon, Eshi et Qigi, c'est-à-dire les trois patriarches du Tendai, les trois premiers patriarches du Tendai. Et le premier nom de cette lignée courte, c'est Nagarjuna. C'est-à-dire que le Tendai se reconnaît comme maître fondateur Nagarjuna lui-même. Dogen est élevé dans le Tendai, il a appris comme tout le monde cette lignée dès qu'il est entré à l'école Tendai, que l'influence de Nagarjuna soit derrière lui me semble certain. Quand on voit que Nagarjuna, donc, la méthode de Nagarjuna, c'est de démontrer le caractère impensable de toute tentative d'exprimer une nature propre, eh bien, nous sommes vraiment chez Dogen. Mais enfin, vous verrez qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans le Zen, Dogen est à la fois nagarjunien par sa méthode, mais il est aussi... extrême oriental, je dirais, c'est-à-dire dans le bouddhisme sino-japonais, où le jisso, ce que nous allons voir tout à l'heure, l'aspect réel des entités, implique une nature propre. Mais je laisse ça pour l'instant de côté. On verra d'ailleurs chez lui, inlassablement repris la technique du tétralème, n'est-ce pas ? Auquel Nagarjuna avait donné sa forme classique, ce n'est pas lui qui l'a créé, mais c'est lui qui l'a fait. Et il est évident, dès qu'on lit Dogen, que le tétralème est utilisé, mais il n'en fait pas un usage exclusif. On a plutôt l'impression qu'il utilise le mouvement même du tétralème, donc de ce raisonnement en quatre stades, en dehors de son cadre logique, pour n'en garder que l'intention ultime, qui est le refus de tout énoncé. Ce refus se déploie en japonais sous un thème en langue chinoise. Et la langue japonaise est l'instrument du dépassement de la possibilité d'énonciation du chinois. C'est très important et nous reviendrons après la lecture de ces pages. Alors, avant d'aborder le sermon qui doit nous occuper pendant ces deux cours, il faut présenter en quelques mots très brefs, parce que là aussi c'est problématique, l'œuvre d'où il provient. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait d'introduction générale à l'œuvre de Dogen parce que l'histoire est très compliquée. Je n'avance qu'au coup par coup pour vous donner juste le strict nécessaire pour comprendre ce que nous faisons. Nous avons annoncé d'entrée de jeu que l'enquête de cette année se limiterait aux deux œuvres majeures de Dogen, le Shobogenzo d'un côté et le Eheikoroku de l'autre. La première, le Shobogenzo, est en japonais. La seconde, le Eheikoroku, est en style chinois, sino-japonais. Ils n'ont pas du tout le même statut dans l'école Soto et même dans la connaissance de Dogen en général. C'est d'ailleurs ce qui les rend très intéressant de mettre en parallèle les deux. Alors évidemment, Dogen, le Shobogenzo est en chinois, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est du japonais qui est à trois couches, en quelque sorte. Vous avez du japonais, vous avez du chinois classique et vous avez du chinois moderne pour l'époque, le chinois zen, le chinois des songs que Dogen utilise comme une sorte de nouvelle langue sacrée, en quelque sorte. Le titre, déjà, du Shobogenzo est problématique, n'est-ce pas ? Je vous en donne... Le titre que je suggère pour l'instant, le réceptacle de l'œil de la loi correcte. Beaucoup de traducteurs, et à très juste raison, préfèrent traduire par trésor. Nous allons voir pourquoi je ne prends pas cette traduction. Alors, je vais simplement faire quelques remarques de bon sens à propos du mot à mot de ce titre. D'abord, la loi correcte, shobo, n'est-ce pas ? C'est un terme que vous connaissez bien, sat dharma en sanskrit, qui est dans le titre même du Sutra du Lotus, n'est-ce pas ? Enfin bon, ça, c'est un mot extrêmement utilisé. Le titre sanskrit du Sutra du Lotus, c'est sat dharma pundarika sutra. Et le titre de la première traduction, c'était Shōhō Kekkyō, n'est-ce pas? Donc, Shōbō ou Shōhō, c'est le même mot. Donc, c'est bien arrêté sur ce thème. Et on se souvient que dans le bouddhisme général, ce terme de loi correcte a un sens assez précis, enfin, sauf pour le contenu, mais pour la précision, disons, de nomenclature, c'est l'une des trois étapes de la loi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le bouddhisme estime que la prédication du Bouddha, qui se fait à partir des sutras, se divise en trois époques. Vous avez une époque où la loi est prêchée et pratiquée telle qu'elle doit l'être, c'est l'époque de la loi correcte, justement, Shōbō ou Shōhō. Et ensuite vient une époque où elle est encore transmise, mais il n'y a que quelques personnes pour la comprendre et la mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle Zōhō ou parfois Zōbō, c'est-à-dire la loi de semblance, la loi d'image, la loi contrefaite, qu'on traduit parfois par contrefaite, ça vient du sanskrit pratirupaka, soit la loi de reflet. C'est pour ça que je préfère traduire par la loi de semblance. Et puis ensuite, vous avez Mappo, n'est-ce pas, la loi finale, c'est-à-dire c'est la période où il n'y a plus que les textes qui sont soit plus ou moins transmis, mais il n'y a plus personne pour les comprendre et plus personne pour les appliquer. Et c'est l'époque de Dogen. Et Dogen est malgré tout, enfin, dans l'époque de Dogen depuis le milieu du XIe siècle, n'est-ce pas? Donc après 1052, les Japonais sont dans l'époque du Mappo, de la loi, de la fin de la loi, de la loi terminale, si vous voulez. Eh bien, ça aussi est présent chez Dogen, mais d'une façon tout à fait différente de ce que l'on peut trouver à la fois dans le Tendai et dans la Terre pure. Donc du point de vue du vocabulaire, c'est la loi correcte. Là, c'est encore autre chose. Pour l'œil, c'est pas Shōbō Genzo. Gen, c'est Manako, qui veut dire l'œil, qui peut parfois dire aussi la pupille, d'ailleurs, puisque dans l'œil, ça serait Moku, mais, n'est-ce pas? Et il s'agit bien, il faut bien traduire, en effet, on est obligé de traduire l'œil de la loi correcte. Alors, il faut voir ce que ça veut dire, plus ou moins. Exactement. L'une des plus anciennes attestations de ce mot qui est très employé dans le bouddhisme, l'œil de la loi correcte, se trouve dans la version en 40 livres du Daihatsu Nihangyo, c'est-à-dire le sutra du Mahaparinirvana, le sutra de l'extinction suprême, l'un des grands sutras philosophiques qui est au moins aussi philosophique, voire plus que le Kegon, qui est vraiment d'une richesse prodigieuse, qui a été traduit en plusieurs versions, et celle-ci, qui a joué un grand rôle dans le Tendai, bien sûr, et celle-ci, c'est la version en 40 livres, et justement, dans la version qui date de 421, c'est la plus ancienne, et on trouve justement dans ce sutra un dialogue entre le Bouddha et un Brahman, Bonshi, vous le voyez, je ne sais pas, ah oui, le terme n'apparaît pas, c'est un Brahman, donc un hérétique en quelque sorte, mais qui est bien sûr conquis par le raisonnement du Bouddha, qui se laisse persuader. Le Bouddha lui dit, vous voyez, donc c'est dans le tome 12 du Tripitaka de Taisho, n'est-ce pas? Fils de bonne famille, Zen Nanji, si, alors, Moshi Nihen ou Shireba, vous voyez que Shireba, ici, ça veut dire se rendre compte. Hein? Alors, Moshi Nihen, il faut dire, Moshi Nihen, Chugen no Muge o Shireba, Kore, Kono Shito, Sunawachi, Yoku, Bonnogo o Danzu, ou Danzu, Danzen. Fils de bonne famille, si quelqu'un se rend compte que les deux extrémités, c'est ce que je viens de vous dire pour Nagarjuna, vous voyez, nous sommes dans le même, que les deux vues extrêmes, c'est-à-dire Henken, n'est-ce pas, les deux vues extrêmes et la vue médiane sont muguées sans obstacle entre elles, c'est-à-dire sont parfaitement intercommunicables, câble. Si on se rend compte de l'interpénétrabilité des deux vues extrêmes et de la vue médiane, eh bien, un tel homme, celui qui s'en rencontre, peut mettre fin, dan, n'est-ce pas, à l'acte, bonnogo, à l'acte suscité par les passions. C'est, donc, vous voyez, c'est une prise de conscience vraiment gnostique. Et vous voyez que chi ne veut pas dire savoir ici, mais bien se rendre compte, n'est-ce pas. Et le brahmane de répondre, cessons, walesdeni chige seli, shobo gen o eshi. Shobo gen ou shobo no manako eshi. Bhagavat, n'est-ce pas, bienheureux, c'est-à-dire vénéré du monde, je m'en suis déjà rendu compte et je l'ai compris, j'ai obtenu l'œil de la vraie loi. Et ça veut dire j'ai bien compris le sens essentiel de la loi. Vous voyez ce que. Ici, c'est tout à fait clair. Bon, je vous passe la suite. Comme vous le voyez, ça nous mène tout de suite à une avalanche de termes bouddhiques fondamentaux qui ne nous permettraient pas de. Je préfère passer dessus. En tout cas, nous restons sur le sens parfaitement clair de l'expression et le fait qu'elle n'est pas spécialement liée au Chan, au Zen, n'est-ce pas, et qu'elle était même, puisque ça date de 421, c'est même avant l'arrivée de Bodhidharma en Chine que l'on situe au début du VIe siècle. Le quatrième terme de l'exposé, Zo, n'est-ce pas, que vous voyez ici. Excusez-moi, vous allez voir. Celui que je vous ai mis ici, c'est avec la clé de la chair, c'est-à-dire au sens d'organe. Celui dont je vous parle, c'est celui qui est à la fin de la première ligne, Zo, sans clé de la chair. Là aussi, le sens est peut-être moins précis, mais on peut malgré tout le cerner en le traduisant par réceptacle. Si on peut effectivement traduire Zo par trésor, c'est dans le composé qui est Hozo, Takara no Kura, qui voudrait dire l'entrepôt des matières précieuses, l'entrepôt des trésors. À ce moment-là, oui, Zo peut être l'abrégé de Hozo, c'est-à-dire qu'on pourrait le traduire par trésor. Mais le plus souvent, lorsqu'il n'a pas le déterminant de Takara, eh bien, ça veut dire magasin, dépôt, entrepôt. C'est, alors pour la grammaire chinoise, c'est ce qu'on appelle un déverbal, c'est-à-dire le caractère chinois zo peut se dire en chinois de toute façon tsang ou zhang. Tsang, c'est un sens verbal, ça veut dire cacher, faire entrer, dissimuler, engranger, etc. Et zhang, c'est le lieu dans lequel, avec lequel on fait cette action, c'est-à-dire on engrange dans une grange. Donc, zhang, comme en fonction nominale, veut bien dire là où l'on cache, on entrepose ce qui contient. Et on sait aussi que ce terme tout seul joue précisément le rôle d'englobant tout ce qui est, on pourrait presque traduire par le conteneur, si ça n'évoquait de grands navires sur l'océan. Et en plus, il faut voir qu'il y a une dimension sémantique cachée, qui est celle que je vous indique en premier, c'est que Zo, même lorsqu'il était écrit sans la clé de la chair, a parfois le même sens, c'est-à-dire le sens d'organe, n'est-ce pas ? Parce que les organes sont creux dans la médecine chinoise. Et vous vous souvenez qu'il a, dans des termes comme nyoraizo, par exemple, littéralement, alors ça peut vouloir dire l'embryon d'ainsi venu, l'embryon de Tathagata, n'est-ce pas, l'embryon d'ainsi venu, ou bien la matrice d'ainsi venu. Et souvent, on se querelle sur le sens exact, et avec la vogue du féminisme actuel, on veut à tout prix que zo veuille dire matrice et pas embryon. C'est dans les deux sens. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les deux sens, il faut le prendre au sens de contenant et pas de contenu. C'est-à-dire que si on le considère comme matrice, c'est ce qui contient l'embryon, et si on le considère comme embryon, c'est ce qui contient la nature de Bouddha, la possibilité de devenir Bouddha. Donc c'est toujours le sens de... Si bien que réceptacle me semble une bonne traduction. Donc, le composé de quatre caractères signifie, selon la lecture la plus directe, le réceptacle contenant l'œil, ou comme nous dirions la pupille, c'est-à-dire la partie essentielle de la loi correcte des Bouddhas. Dans le Chan et dans le Zen, donc, cette formule a un sens assez différent de celui qu'il a dans le bouddhisme plus général, et dont nous venons de voir un exemple dans le Sutra du Nirvana. Pour en trouver une bonne illustration, je vous invite à revenir à notre texte de référence. Si je vous l'ai dit, je reviens pas. Il est très pratique et puisqu'il est au carrefour de plusieurs traditions que je n'ai pas à expliciter, mais qui nous donne vraiment le common knowledge, on dirait en anglais, la connaissance générale nécessaire à la compréhension. Et donc, dans le Denko-roku, la transmission de la lampe de Keizan, vous vous souvenez, c'est celui qui a fait, quelques dizaines d'années après la mort de Dogen, une sorte de résumé de l'école dans son Denko-roku, où il donne 52, plus celle du Bouddha, donc 53 notices sur ce qu'il considère comme les patriarches, les ancêtres de l'école Soto en Chine, en Inde, en Chine et au Japon. Et le premier patriarche, c'est Mahakashyapa, celui qu'on voit ici, Kasho, n'est-ce pas le premier, et qui est dans cette fameuse histoire, n'est-ce pas, où le Bouddha, prêchant la loi, brandit une fleur. Alors, Nenzu, Hanao Nenzu, n'est-ce pas, Nenge. On ne sait pas ce qu'il fait à la fleur. Parce que ce Nen veut dire aussi triturer, tripatouiller. Est-ce qu'il la tient toute seule ou est-ce qu'il la triture? Il y a une petite ambiguïté du chinois. Pour l'instant, donc, disons qu'il brandit la fleur et on pourrait traduire les termes qui suivent, n'est-ce pas, Hagam Bisho Su, n'est-ce pas, ou Kao Yabulite Bisho Su, c'est-à-dire Kashyapa fend son visage d'un sourire, et le Bouddha dit alors, je suis en possession du Shobo Genzo, alors ce n'est pas le livre ici, donc je suis en possession du réceptacle de l'œil de la loi correcte, et autre expression synonyme, il le dit dans la foulée, n'est-ce pas, Neham Myoshin, je suis en possession du réceptacle de la voix correcte, de l'esprit subtil du nirvana que je transmets à Mahakashyapa. Vous voyez que est considéré comme synonyme de Shobo Genzo ici, Neham Myoshin, c'est-à-dire un composé. Et si l'on se fie à la langue chinoise, qui est une langue qui cultive le parallélisme, Myoshin est dans la même position, et donc dans la même position sémantique que Genzo. C'est-à-dire que réceptacle de la loi et cœur de la subtilité, réceptacle de l'œil et cœur de la subtilité sont dans le même rapport. C'est-à-dire que Gen est une sorte d'adjectif. Le réceptacle oculaire, le réceptacle essentiel, et Myoshin, ici c'est cœur, on le comprend dans le sens de cœur-esprit, mais c'est aussi le sens sanskrit de Hridaya, qui veut dire le cœur comme essentiel, le cœur fondamental. Et vous voyez, c'est pour ça que je faisais allusion au sens de organe de Zo, vous avez d'un côté un organe creux et un cœur. Un cœur qui bat au centre de la doctrine. Donc, il faut bien voir que Shobo Genzo et Neham Myoshin sont deux appellations qui désignent l'essentiel de la doctrine, tout simplement. Dans l'école Zen. Et l'on voit un synonyme qui est donné après. Je vous passe sur les détails. Les détails philologiques de ce synonyme, mais on sait que ces synonymes de Shobo Genzo, Neham Myoshin, c'est Emmyo Muso Homon, qui est très typique aussi de la pensée de Dogen. Homon veut dire la porte de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine, tout simplement, l'enseignement Muso, au-delà des marques, au-delà des aspects délimitants, Emmyo, parfaitement clair. Voici à peu près les différentes sortes de liens sémantiques qu'appelle ce terme de Shobogenzo, donc qui n'est pas forcément un titre. Mais il a été utilisé comme titre sinon très fréquemment, du moins de façon suffisamment diverse pour nous intriguer. J'ai déjà fait allusion à cela la dernière fois. La première occurrence de Shobogenzo comme titre de livre, c'est ce moine chinois que l'on prononce en chinois Dahui Zonggao, n'est-ce pas, Dae Soko, 1089-1163, pratiquement un siècle avant Dogen. Dogen est mort en 1253. Et il a laissé un livre qui s'appelle le Shobogenzo, que l'on a, et qui est un recueil de koans, c'est-à-dire d'énigmes zen. Et ce qui est très intéressant, je vous l'ai déjà dit rapidement, Zonggao, Soko, est un ennemi déclaré, il fait partie de la branche Linji, c'est-à-dire Linzai du zen, et c'est un ennemi déclaré de la branche Soto, c'est-à-dire de la branche dont se réclame Dogen. Hein. Et pour combattre justement les méthodes de pratique de méditation selon la branche Soto qui privilégie la méditation assise sur la méditation de l'énigme du koan, Zonggao a fait ce Shobogenzo, recueil de koan, pour lutter contre le Soto. Et l'on voit quelques temps plus tard Dogen reprendre le même livre qu'il le connaît très certainement, reprendre le même titre sans jamais, nulle part, dire qu'il existe déjà un livre en chinois qui est cet intitulé. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Shobogenzo que nous possédons, sur lequel nous allons travailler, on l'appelle soit Shobogenzo tout court, soit Kana Shobogenzo, le Shobogenzo en Kana. Nous allons voir qu'il y a des Kana, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de caractères chinois, mais disons, ça veut dire le Shobogenzo en japonais. Mais on possède aussi un texte tout à fait intéressant, qui est ce qu'on appelle le Shinji Shobogenzo, Shinji qui est parfois lu Mana, c'est-à-dire le Shobogenzo en caractère véritable, c'est-à-dire en caractère chinois, par opposition au kana. Et c'est un texte de Dogen qui a longtemps été ignoré. C'est-à-dire on a souvent pensé que c'était un faux. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du XXe siècle que son caractère authentique a été démontré de façon irréfutable. Et c'est un texte entièrement en chinois, comme le sens l'indique, et c'est ce qui est très intéressant et ce qui a bouleversé vraiment une bonne partie des idées que l'on avait sur Dogen, c'est que c'est un recueil de koans. C'est-à-dire qu'il y a 301 énigmes que Dogen n'appelle pas koan, il les appelle kosoku ici. Vous souvenez que dans le denkoroku, ces koans sont aussi appelés honsoku, n'est-ce pas ? C'est un synonyme de koan, à vrai dire. Littéralement, les principes anciens. Vous savez que koan désigne les cas judiciaires, hein, les cas à juger. Et nous avons en quelque sorte le livre de source du Shobogenzo en kana, c'est le dossier scripturaire fait de morceaux pris dans une grande quantité de textes de zen chinois, de chan chinois, qui a servi de pense-bête à Dogen lorsqu'il prononçait ses sermons. Déjà, ici, vous avez encore un lien entre une espèce de va-et-vient entre chinois et japonais. Alors, pour ce qui est du Shobogenzo à proprement parler, je vois que le temps passe et nous ne sommes pas encore entrés dans le. Mais le Shobogenzo à proprement parler a une histoire textuelle très compliquée. Je ne vais même pas vous la résumer ici. Je vous donne simplement ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord. Alors, on est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un recueil de sermons, des sermons prononcés par Dogen de 1231. À l'année de sa mort, ou un peu avant sa mort, en 1253, donc une vingtaine d'années, des sermons prononcés la plupart du temps dans son monastère du Heiji. Bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là où l'on est moins d'accord, c'est de voir combien il y a de sermons, quelle est la part que Dogen lui-même a jouée dans la mise en forme de ces sermons. Et là, alors, je vous donne simplement un consensus. Il y a quelques années, la Vulgate, si vous voulez, le texte le plus répandu, c'était la version en 95 livres. C'est celle d'ailleurs qui a servi à la grande traduction anglaise qui est dans la English Tripitaka Series de la Nihon Dendo Kyokai que vous pouvez obtenir gratuitement sur l'Internet, me semble-t-il. Et depuis quelques années, on a revalorisé la version en 75 livres, c'est-à-dire plus courte, mais qui a le mérite d'être la version la plus ancienne, anciennement attestée, qui était élaborée par Ejo, vous vous souvenez, je l'ai donné dans les premiers cours, Ejo, c'est-à-dire le grand disciple de Dogen, le premier grand disciple de Dogen, qui est donc le deuxième patriarche du Sotoshu au japonais, et qui, vous vous souvenez peut-être, qui était un disciple de Nonin, n'est-ce pas, qui avait fait défection. Donc c'est la version dans 75 livres qui est la plus importante pour nous puisqu'elle représente quand même la tradition, tradition de l'école Soto. Et nous avons aussi une version en 12 livres. Alors ce n'est pas une version compacte, mais c'est une version coupée en quelque sorte, puisque on est à peu près sûr que c'est la version. Ces 12 sermons ont été révisés et publiés, révisés, rédigés par Dogen lui-même. Alors ça, c'est très important. Malheureusement, ils ne font pas tout à fait double emploi avec les autres. Alors, comme nous l'avons dit au cours précédent, nous allons commencer cette plongée dans la pensée discursive de Dogen, cette combinatoire dialectique, par le chapitre 43 de l'édition en 75 livres, qui s'appelle justement Shōhōjisō, terme que vous avez à la première ligne. Attendez, je vais vous le donner ici. Ce sont les quatre derniers caractères de la première ligne, n'est-ce pas ? L'aspect réel des entités, hein, des dharmas. C'est un terme qui vient au chapitre 2 du Sutra du Lotus, le Hobenbon, le chapitre des expédients salvifiques, dont je vous donne ici la citation selon la version de Kumarajiva. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'un des dogmes les plus discutés, les plus fondamentaux, les plus explicités au cours des âges du bouddhisme extrême oriental et de l'école Tendai, cela va de soi. Et c'est d'ailleurs les deux dogmes, n'est-ce pas, les deux gni qui sont donnés dans ce passage sont aussi importants l'un que l'autre. Vous avez d'un côté le Shōhōjisō, c'est-à-dire l'aspect réel des entités, qu'on peut traduire aussi par la réalité des choses, c'est plus simple et peut-être plus parlant. Et puis cet aspect réel se subdivise en 10 catégories qu'on appelle les 10 incités parce que vous voyez que ces 10 catégories que je vous donne ici, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, ça fait 9, et la dernière, la dixième, sont des phrases qui commencent chacune par nyose en chinois, kaku no gotoku, ou kaku no gotoki, ce serait kaku no gotoki so, etc. Donc, ce qui veut dire, c'est comme cela, littéralement, ainsi. Comme ceci, n'est-ce pas ? Nyo-ze, comme ceci, très littéralement. Très littéralement, c'est du chinois, on ne peut plus simple. Hein, donc, quand on traduit par incité, étalité, suchness, etc., c'est très ronflant, mais le chinois est extrêmement simple. Et comme je vous l'ai dit déjà, ces deux dogmes ne sont pas dans l'original sanskrit du Sutra du Lotus. Ils ne sont que dans la version de Kumarajiva. Il y a une base sanscrite. Il y a un passage sur lequel se fonde cette traduction, mais elle est tout à fait différente. Par exemple, Shōhōjisō a souvent été réinterprété par... on a souvent retraduit en sanskrit par un mot qui n'existe pas, c'est pas Sarvadharma Bhutalakshana, c'est-à-dire le signe de réalité, n'est-ce pas, la marque de réalité des dharmas. Mais c'est un terme qui n'existe pas en sanskrit. Et le seul terme sanskrit qui apparaît dans ce passage qui pourrait être considéré comme la traduction, comme l'original de Shōhōjisō, c'est justement svabhava, la nature propre, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était la chose qui était niée par Nagarjuna. Là, vous voyez que les choses sont assez compliquées. Je n'aurai pas le temps de démontrer, m'appesantir là-dessus, mais j'ai tenté de démontrer, je crois avec de très bonnes raisons, qui n'ont pas encore reçu l'adhésion du monde savant en général, mais c'est peut-être parce que les gens n'en ont jamais entendu parler. J'ai démontré que cette traduction surprenante, vraiment, du Sutra du Lotus, doit être comprise comme un remaniement par Kumarajiva et son atelier de la traduction antérieure. La traduction de Kumarajiva date de 406. En 286, 120 ans auparavant, Dharmaraksha avait déjà publié une première traduction en chinois, avec déjà une traduction très peu compréhensible de ce passage, et je crois avoir pu démontrer que la version de Dharmaraksha ne doit pas se lire à partir du sanskrit, mais à partir d'un remaniement, d'une relecture de la version de Dharmaraksha. Ce qui fait que pour beaucoup de croyants, de soutien, de partisans du Sutra du Lotus en Extrême-Orient, eh bien la version chinoise est en quelque sorte plus réelle, plus authentique que la version sanscrite. On arrive à ce paradoxe assez extraordinaire à cause de ce passage. Alors, ce passage, je vous le donne, vous pouvez le lire vous-même, n'est-ce pas, je ne vais pas vous le relire, mais... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 10 catégories qui permettent, et 10 catégories qui montrent l'aspect réel des entités tels qu'ils apparaissent au Bouddha, aux éveillés. Je traduis Bouddha par... Oui, on m'a posé la question. Je traduis Bouddha par éveillé, non pas parce que ça veut dire éveillé en sanskrit, vous savez que ça ne veut pas dire éveillé, ça veut dire plutôt qui a compris en sanskrit, mais c'est traduit en chinois par kaksha tjöja, c'est-à-dire l'éveillé. C'est... Donc, et comme je suis sinocentrique dans mes traductions, puisque les moines chinois et japonais ne connaissaient pas le sanskrit, ils partaient du chinois, il faut que nous fassions comme eux si nous voulons les comprendre, n'est-ce pas? Et alors, donc, nous voyons donc qu'en ancien, en bon escolier du Tendai, Dōgen commence l'un de ses principaux sermons par une référence à ce sutra. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que je ne vous donne pas l'ensemble. Le titre est bien Shōhōjisō, comme je vous l'ai dit, le titre, c'est le problème, en quelque sorte. Le titre est la question disputée. Mais après, Dōgen ne part pas sur la traduction du sutra. Il va sur la citation du sutra. On s'attendrait que ça commence comme ça. Mais il prend ses lecteurs, enfin ses auditeurs d'abord et ses lecteurs ensuite, à contre-pied, en imposant d'emblée quelques principes de lecture qu'il va suivre et qu'il va prolonger bien au-delà de la lettre du texte scripturaire. Alors, je vous ai déjà donné, je vous demande de faire attention au fait que ne restons que sur les premières incités. L'incité d'aspect, n'est-ce pas, Nyoseso, l'incité de nature, l'incité de substance. Ensuite, vous voyez, ce sont trois incités atomiques, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reliées les unes aux autres. Et ensuite, vous avez des couples, vous revenez ici, vous avez des couples, vous avez les incités de puissance et d'effet, les incités de cause et de condition, les incités de fruit et de rétribution. Donc vous voyez, riki saku innen kao. Et puis vous avez la dernière incité qui est l'incité de égalité parachevée du début à la fin, qui regroupe l'ensemble des incités. Alors voilà à peu près ce que dit le Sutra du Lotus. Alors, voyons tout de suite le début de Dogen. Busso no Genjo wa Kujin. Alors, on peut dire Kujin ou Gujin no Jisonari. Certaines personnes dans le Zen disent Gujin. Et moi, je dirais Kujin, n'est-ce pas? Busso no Genjo wa Kujin no Jisonari. Il faudrait passer des heures sur chaque mot, mais la réalisation présentielle, que je peux traduire aussi par l'actualisation des Bouddhas et patriarches. Ce qui peut dire aussi Bouddha patriarche, les patriarches en tant que Bouddha ou les patriarches que sont les Bouddhas. Ces trois sens se retrouvent chez Dogen. Ici, il est impossible de savoir desquels il s'agit. Donc, on pourrait dire des Bouddhas patriarches. Donc, l'actualisation des Bouddhas patriarches est l'aspect réel scruté jusqu'à son terme. Si vous revenez ici à la... Vous voyez que Gujin, Shoho, Jiso, ce sont les dernières lignes du Sutra du Lotus. Je vous ai dit que le texte chinois, en chinois, veut dire « Seul un éveillé peut, avec un autre éveillé, scruter jusqu'au bout, jusqu'à son terme, l'aspect réel des entités. » Mais déjà, notre ami Dogen se livre d'emblée à une autre interprétation du texte. L'actualisation, c'est-à-dire la réalisation des Bouddhas patriarches, est l'aspect réel, la réalité menée à son terme. Il fait déjà un détournement de sens. Alors, Genjo n'est pas le lotusien, hein, je ne reviens pas dessus. Et il faut savoir que Genjo apparaît dans un terme très important chez Dogen, qui est Genjo Koan. Je ne m'étends pas dessus pour l'instant. Sachez simplement que chez certains commentateurs, le Genjo Koan, que je pourrais traduire par le mystère de l'actualisation, si vous voulez. Le Koan, c'est l'énigme, là, je traduis l'énigme de l'actualisation. Oui, pourquoi pas, ça serait une très bonne traduction. Est parfois considéré comme un synonyme de Shoho Jiso, justement. Alors, vous voyez qu'on joue en réalité sur des décalages de termes. Mais nous voyons déjà le coup d'audace de Dogen. Alors que dans le Lotus, l'aspect réel n'est que l'objet de la connaissance des Bouddhas. Les Bouddhas ont une connaissance de l'aspect réel des entités, parce qu'ils voient par leur sagesse ce que sont vraiment les entités. C'est-à-dire que les entités ne sont pas spécialement quelque chose en tant que telles. Eux les voient, eux voient ce qu'il est. Donc ce n'est que l'objet de connaissance des Bouddhas, dont ils ont la compréhension par leur sagesse suprême. Pour Dogen, cet aspect réel est le point d'aboutissement de leur pratique. C'est proprement inverser la lettre du sutra. Il continue de plus belle en triturant le chinois originel grâce à la liberté que lui confère la lecture explicative japonaise, le kundoku. Il va se livrer à plein au kundoku. Et il donne ici l'aspect réel est les entités. Jisowa shoho nadi. L'aspect réel est les entités. C'est encore ici une inversion surprenante. Rien n'empêche de lire Shoho Jiso en Shoho wa Jiso Nadi. C'est d'ailleurs, et n'oubliez pas, c'est d'ailleurs l'inverse. Shoho wa Jiso Nadi, les entités sont l'aspect réel, sont la manifestation provisoire, phénoménale, de quelque chose qui est derrière et qui est réel. C'est le mouvement même de J.N., vous vous souvenez de ce poème que j'adore et qui est presque le point de départ de cette enquête, n'est-ce pas ? Le poème que J.N. a fait sur le terme même de Shoho Jiso, Tsunokuni no naniwa no koto mo makoto to wa, Tayori no kado no Tayori no kado no michi yori zoshiru, n'est-ce pas ? Que la baie de Naniwa dans la province de Tsu soit réelle, nous le savons par le chapitre du Sutra de Lotus, etc. C'est-à-dire que Naniwa no Kotomo Makoto Towa, Naniwa c'est Shoho, tout est réel. Donc Shoho Jisso. Il est bien interprété comme ça. Ici, il inverse, n'est-ce pas ? Il inverse. L'aspect réel est les entités. C'est une inversion surprenante de la Vulgate du Tendai. Et je vous l'ai dit, Jien est très peu de temps avant Dogen, c'était la compréhension du Tendai de l'époque. Alors, on voit par les vers de Jien que la lecture brisée du mot de quatre lettres, n'est-ce pas, Shoho Jisso, était déjà parfaitement licite dans le Tendai. Mais l'inversion opérée ici par Dogen est une dangereuse acrobatie où il retourne la perspective. Alors que la sentence fondatrice du Tendai était une invitation à reconnaître le réel derrière l'impermanent, de la même façon que le Bouddha en nirvana éternel est caché derrière la semblance phénoménale qu'il a donnée de l'extinction, ici c'est le phénoménal lui-même qui est donné d'emblée comme actualisation du réel. Il faut dire que vraiment Dogen démarre très fort. Dans les deux phrases qui suivent, il semble s'assagir. Les entités sont le réel, Shoho wa nyoseso nari, nyosesho nari. Les entités sont de tel aspect, elles sont de telle nature. Ça, c'est la première constatation. Apparemment, il suit la lettre du sutra. Apparemment seulement, car si la lettre est bien suivie, le sens ne l'est pas du tout. Ici, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il ne fait que suivre la tradition Tendai. Le sutra est pourtant très clair. Les Bouddhas, donc vous voyez, Dogen reste quand même Tendai. Dans le sutra tel quel, sans l'exégèse Tendai, les Bouddhas ont connaissance des dharmas. Il est d'ailleurs plus probable qu'en sanskrit, même le dharma ici ne veuille pas dire entité, mais les méthodes ou les pratiques, les enseignements. C'est-à-dire qu'il leur confère, les Bouddhas, leur statut exact, qui n'est bien sûr pas forcément réel, et ce serait même le contraire. Mais je vous ferai grâce des développements scolastiques, mais ils sont formels. Les nyosés évoluent en fonction des quatre doctrines. Ça ne veut pas dire forcément tels qu'ils sont en réalité. Ils ne désignent donc pas la réalité telle qu'elle est, ou plutôt ce sens ne vient que dans la quatrième doctrine, la doctrine parfaite. Mais Dogen suit le Tendai ici, c'est-à-dire pas le Sutra du Lotus, mais l'exégèse Tendai, dans son maximalisme, en choisissant de prendre le sens le plus haut. Il y a donc, sous couvert de littéralisme, une sorte de tendaïsme qui est plus inconscient que délibéré. Et nous sommes quand même en territoire lotusien malgré tout. Mais c'est ensuite que Dogen prend son essor. Alors il prend vraiment le parcours de fuite, n'est-ce pas ? En se dégageant du dogme scolastique, il continue de... Vous voyez que jusqu'à maintenant, ça s'est présenté plus ou moins comme un kundoku, une lecture explicative de la lettre du sutra. Mais brusquement, alors que extérieurement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, extérieurement, il continue à suivre la grille d'expression du sutra du lotus, mais il dérape complètement. Alors, il n'utilise plus le terme nyosé que comme instrument de sa rhétorique herméneutique. Tel est le corps, nyosé shin nadi, nyosé shin nadi. N'est-ce pas ? Bon, on peut pas distinguer en japonais, on pourrait peut-être dire nyosé jin nadi et nyosé shin nadi. Tel est le corps, tel est l'esprit. Cette fois, nous ne sommes plus dans les jyōnyosé du Tendai, mais nous n'avons aucune peine à reconnaître la marotte de Dogen, si l'on veut bien me passer l'expression. C'est le binôme corps-esprit, Shin-Jin, que nous avons vu dans l'expression, dans le koan fondateur de l'éveil de Dogen, Shin-Jin Datsudaku, la chute, n'est-ce pas, la chute du corps et de l'esprit. Donc, dans la suite du texte, il met aussi ces deux catégories comme prédicat de l'aspect réel, qui est aussi les entités. Il utilise bien nyosé au sens maximaliste, et il faut comprendre, l'aspect réel est le corps tel qu'il est, l'esprit tel qu'il est, en tant qu'ils sont des entités réelles. Donc ce dont il s'est débarrassé dans son satori, datsudaku, n'est-ce pas, datsudaku ça a disparu, mais ici nyosé shin, c'est, on en pose la réalité. Vous voyez le paradoxe tout à fait extraordinaire de Dogen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il il va... Donc après, vous voyez, ça c'est la soupape par laquelle il sort du Sutra du Lotus. Et après, il étend comme un tour d'horizon, il va dire aussi « tel est le monde ». Alors là, on n'est plus du tout dans, on n'est plus du tout dans le Lotus. « Tel est unnu », c'est-à-dire « kumo-ame », n'est-ce pas, « les nuages et la pluie », c'est-à-dire le monde naturel. Nous reviendrons là-dessus, il parle en réalité du monde réceptacle, du monde ambiant, du monde naturel, mais qui n'est que la projection de notre esprit. Une première sortie vers le hors de soi, et puis ensuite une extension aux activités humaines, mais en même temps on voit que ça prend une tournure vers la vie monastique. Tels sont les... Alors, Byoju Zaga, n'est-ce pas, tels sont dans leur réalité la marche, le marcher, demeurer, s'asseoir et se coucher. Ces quatre activités primordiales du corps humain sont à prendre dans leur aspect réel, dans leur réalité, toujours sous le signe du Sutra du Lotus, c'est-à-dire comme objet de connaissance des Bouddhas. Et ensuite, les mouvements de la pensée, de l'humeur, le chagrin, la joie, le mouvement, le chagrin, la joie, le mouvement et le repos. Tout ça, ce sont des choses qui existent telles quelles sous l'aspect du Shōhō-jisō. Et il continue cette fois en s'accrochant, en prenant le monde monastique qui l'environne. Il est au milieu de moines. Il faut bien voir ça aussi. Donc il dit. Vous avez ici Chujo Bushinari, tel est, ainsi existe, tel qu'il, ainsi existe en lui-même. Et là, il faut mettre le pronom personnel en français parce qu'il est en train de le montrer. Vous verrez d'autres fois où c'est bien, où il n'y a pas de doute. Hein. Donc, tel est mon bâton de moine. Ma canne de moine, telle est ma canne, mon bâton monastique, ma crosse, si vous voulez, c'est pas un évêque, telle est ma crosse, telle est mon chasse-mouche. Il a bâton et chasse-mouche, voilà, ils existent aussi, ce sont des jisso, hein, la réalité. Telle est Nenge Hagan Nari, alors telle est la fleur que l'on brandit et le visage fendu d'un sourire, Shobo Genzo, n'est-ce pas, vous comprenez bien qu'il redonne le titre du sermon ici. Nyose Shiho Jukinari, alors là, petit mystère, telle est la lignée de la loi, ça nous sommes bien d'accord, c'est la lignée de la loi qui est primordiale dans le Zen, n'est-ce pas, dans le Soto, et telle est Zuki, la prédiction. Alors je ne peux pas revenir là-dessus, et c'est incongru, n'oubliez pas, c'est plutôt l'annonciation, c'est l'annonce que font les Bouddhas aux disciples pour dire qu'un jour ils deviendront Bouddha et Bodhisattva. Et ensuite, telle est la pratique de la voie. Donc ici nous sommes vraiment dans le monde monastique. Et puis, dernier point, Nyose Shōso Chikusetsunari. Alors il faudrait lire Shōchiku Sōsetsu, n'est-ce pas, ou Shōchiku Sesso, c'est-à-dire telle est la vertu et la droiture vertueuse des pins et des bambous. Bon, ce sont des plantes qui poussent droit, donc vous voyez la métaphore est immédiate. C'est-à-dire que là vous avez une sorte de prédication de brusquement d'éloge de la vertu mondaine en quelque sorte, qui vient après la liste des attributs monastiques. Donc une vertu humaine générale. Nous avons ici, je l'ai parcouru très rapidement, un passage véritablement emporté, déjà une sorte de tourbillon, de véritable prédicateur, et qui va lui-même au bout, vous voyez ce Kujin, tout à l'heure nous avions le mot Kujin no Jisso Nari, c'est Dogen qui va au bout des possibilités d'expression en partant d'un mot du Sutra du Lotus, de l'un des dogmes les plus connus du Sutra du Lotus, et lui, avec une tranquille assurance, il le bouleverse pour le remettre. Alors, voilà, j'ai un peu dépassé, j'en suis désolé, mais nous avons fait les premiers pas dans ce chapitre très difficile, mais vous allez voir, très représentatif de la méthode de Dogen, ce passage constant entre le sutra du lotus, sa pensée, et sa pensée qui n'est elle-même qu'un déroulé combinatoire des possibilités d'expression de la langue chinoise qu'il développe en japonais. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui et j'espère qu'il y aura moins de neige la semaine prochaine. Voilà, merci, au revoir.